bord près de lui.
C'est ce monsieur-là qui fait les ordres. Par certains qu'Eli avait paru. Eli, c'est celui qui devait annoncer la venue du Messie. Et par d'autres, c'est qu'un prophète des ancêtres s'est adressé de la mort, par exemple Jérémie. Il y a le prophète, souvent il est identifié avec Jérémie, le prophète dont parle Deutéronome 18:15, Moïse avait dit, Dieu suscitera après moi un prophète semblable à moi. Or Hérode dit, Jean, moi je l'ai décapité. Il est mort et bien mort. Or qui est celui-ci? Qui est celui-ci au sujet duquel j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Et alors, les pauvres, le repas au désert, Jésus est celui qui rassemble et qui donne à manger à ses disciples. Donc voilà une manière dont Luc nous fait découvrir comment on écoute la parole. Alors, le petit schéma. Pour dire ça d'une manière simple et pratique, l'écoute du juif et l'écoute du païen, imaginez un cercle qui indique un peu par où il faut passer pour découvrir précisément cette parole, la force de cette parole qui vient de Dieu. En fait, pour le juif, le premier schéma, je divise généralement le cercle en quatre, la verticale en horizontale. La verticale symbolise Dieu qui tombe à la verticale de nos vies. Et l'horizontale symbolise notre chemin. Pour un juif, Dieu donne. On part toujours du don. Donc la toute première chose, c'est le don. Si un don, c'est qu'il y a un donateur. Et le premier don que Dieu fait, c'est la vie. Et la vie qui nous est toujours donnée comme une loi. Je suis homme ou femme, je suis dans tel milieu, pas dans tel autre, je suis noir ou blanc. Vous voyez, le don est toujours déterminé par un certain nombre de paramètres, comme nous disons. Et rien à faire, ça m'impose quelque chose, une loi. Quelqu'un vient sonner à ma porte, il est là. Je peux dire oui, je peux dire non, je peux aller ouvrir, je peux faire la sourde oreille. Il est là, il m'impose sa loi, de quelque manière que ce soit. Donc un don est toujours conçu dans le judaïsme comme une loi. La loi n'étant pas une mauvaise chose, la loi étant simplement la règle du jeu de ce que je suis. Je suis dans un monde où il y a des autres. Mais je ne suis pas l'aîné, je suis le plus jeune, etc. Oui, donc ça c'est... Donc un don fait nécessairement naître la réalité d'une loi. Quand Dieu crée l'homme dans un jardin, il le met devant des arbres, il en a dit parmi les arbres, qu'est-ce que vous voulez. La loi est toujours liberté. Dans la Bible, si je te donne une loi, c'est précisément pour te dire que tu es libre. Sinon, je te donnerai pas le droit. Donc, devant la loi, je te mets devant quelque chose, tu dois réagir. Donc, tu es libre. La loi suscite la liberté. Et je vous dis, ça, c'est la manière libre de réfléchir. Nous réfléchissons autrement parce que nous sommes des païens. Mais le juif réfléchit comme ça. Alors, vous comprenez bien que la loi me met en tentation, je vous réponds. Donc la tentation vient immédiatement. La loi est tentation. La tentation étant, justement, l'expression même de la liberté. Je peux dire oui, et moi je peux dire non. Alors, si à la tentation, si je renonce, si je refuse la tentation, et si j'accepte la loi, je rends grâce à Dieu, et le cercle est bouclé. C'est ce que fait Jésus. Il rend grâce à Dieu. Il ne portera pas le Seigneur ton Dieu, etc. Donc, nous sommes dans la reconnaissance. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment il faut dire, d'une manière générale, en tout cas, nous ne disons pas non à la tentation, nous disons oui. C'est-à-dire que nous prenons la loi pour nous et nous faisons notre propre loi. Nous prenons notre liberté pour agir à notre guise. C'est-à-dire en termes hébraïques que nous transgressons la loi. Transgression. Nous sommes dans l'ordre de la loi. Oui, la loi, transgression. Tu peux manger de tous les arbres de ce jardin à l'exception d'un arbre, voilà. Et l'exception de cet arbre, c'est celui qui te dit ce qu'est le bonheur et le malheur. Le bonheur et le malheur, c'est moi qui le dis, c'est pas toi. Si toi tu veux manger à l'arbre du bonheur et du malheur, c'est-à-dire dire à toi-même ton propre bonheur et ton propre malheur, et tu n'utilises pas exactement ce que tu es. Tu vis autrement. Tu choisis d'être ton propre Dieu. Et c'est la transgression. Tu te fais la loi de toi-même. Et quand j'ai transgressé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on me révèle que j'ai transgressé. Enfin non, j'ai transgressé, ça je m'en rends compte. Adam et Ève se cachent dans le jardin. Mais ils ne savent pas encore qu'ils ont péché. Il faut que Dieu révèle le péché. C'est toujours Dieu qui révèle le péché. C'est toujours face à Dieu que je découvre que je suis pécheur. C'est pour ça que je dis que c'est grâce à Dieu que je puis pécher. C'est grâce à Dieu que je puis me découvrir pécheur, parce que c'est lui qui me le dit. Dans la Bible, je peux prendre conscience de ma culpabilité, mais pas du péché. Le péché, c'est étant que j'ai atteint Dieu. Qu'est-ce que ça fait à Dieu, mon péché? Il est trop grand pour ça. Mais non, non, il a pris justement un corps pour y être sensible à mon péché. Il a pris le corps de tous mes frères pour pouvoir concrètement être blessé lorsque j'inflige du mal à mon frère, ou bien à moi-même. Donc c'est important que Dieu me le révèle. Et dans la Bible, on révèle toujours le péché à Adam et Ève, à David, à Moïse, etc. Il faut le révéler. Dieu me fait une grâce en me révélant mon péché, en me disant péché, dans un certain sens, en m'excluant de la communauté des juifs, des justes. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors il y a dans la Bible on appelle le châtiment ou la punition. Qu'est-ce que c'est le châtiment? Le châtiment, c'est la prise de conscience que mon péché a creusé un sillon dans ma terre ou dans ma vie. C'est que péché, c'est vraiment délirer au sens propre du terme, c'est-à-dire sortir de mon sillon. L'ira, c'est le sillon. Donc c'est vraiment me mettre en dehors de ma situation concrète. Prenez, puisque nous avons vu le texte d'Anani et sa fille, et ils introduisent un poison de mort au cœur de la communauté. Il faut le leur révéler. Et ce qui apparaît dans les Actes des Apôtres, comme leur mort subite, exprime justement qu'ils ont introduit la mort et qu'ils sont en quelque sorte victimes de cette mort qu'ils ont introduite dans la communauté. en mentant à l'Esprit Saint. Donc le châtiment, c'est la réalité que nous nous infligeons en péchant, mais que Dieu doit sanctionner puisqu'il est le maître. Mais ce n'est pas son dernier mot, c'est son avant-dernier. Et donc, le châtiment va mener à quoi ? Le châtiment va mener à ce que nous appelons une confession, un aveu, une découverte, une prise en charge de notre péché, une prise en responsabilité de notre péché. Donc, disons confession. Confession, j'aime bien ce mot de confession, parce que c'est confesser Dieu, c'est toujours confesser la parole de Dieu, une confession, toujours une profession de foi, une confession de Dieu présent jusqu'au cœur de mon péché. C'est cela que je vis, confession. Et cette confession, je vais l'actualiser, la rendre concrète et sensible dans ce que la Bible appelle un sacrifice. Je vais faire un sacrifice, apporter un sacrifice. Sacrifier une bête. Bon, si je sacrifie une bête, c'est pour dire que je me sacrifie moi-même. Je fais d'abord un trou dans mon portefeuille en achetant la bête. Ça me coûte quand même quelque chose. Donc, faire un sacrifice, c'est déjà lâcher du lest. C'est déjà rendre sainte la réalité que je vis, la faire rentrer dans la sainteté de Dieu. Et alors, que fait Dieu ? Il pardonne. Il nous pardonne. Ça, c'est le chemin de la grâce de Dieu à travers mon péché, à travers ce qui m'apparaît comme un péché, parce que Dieu me le révèle. Alors, vous voyez, ici vous avez le carré de la loi, transgression, châtiment, sacrifice. C'est ce qui est toujours dans la loi. Et là, vous avez le chemin de l'expérience. Don, tentation, péché, confession, pardon. C'est la manière dont le juif, c'est un peu caricatural, bien entendu, mais enfin, c'est pour vous faire comprendre. Voilà le chemin qui se vit dans la Bible lorsqu'on parle de loi et lorsqu'on parle de chemin d'alliance. Le don est une alliance. Quand Dieu me donne une alliance, il me rend libre. Je puis l'accepter, je puis la refuser. Je dis, ben moi, je ne vois pas très bien un Dieu qui marche devant moi, je voudrais bien un Dieu qui marche devant moi, on va se faire un veau d'or. Hein. L'or, ça marche devant moi, ça se comprend. Donc, tentation, je chute. Dieu doit me révéler mon péché. Descends vite parce que ton peuple a prévarité dans la plaine. Alors, quand Moïse revient, il dit, lui, ça fait, mon peuple a été pécheur. En fait, il va pardonner. Il discute avec lui et Dieu pardonne. C'est ce petit schéma-là que vous voyez constamment dans la Bible.
Et doit avoir leur fondu.
Ah, bah, ça c'est châtiment. Hein. Buvez un petit peu vos crasses, là. Hein. Vous avez fabriqué des choses d'un poison qui tue l'autre, mais moi, buvez-le d'abord, hein, passez par là. C'est-à-dire, réalisez ce que vous avez fait, le poison que vous avez réalisé dans la communauté. Tandis qu'un païen ne va pas réagir comme ça. Un païen, il ne part pas d'un don. Hein. Généralement, le païen part d'un don. Il ne sait pas du tout où les choses viennent. C'est un donné, un donné de la science. C'est comme ça. Il ne se demande pas s'il y a un don, mais un don. Ils ont généralement un don. La donnée d'un problème, les termes concrets dans lesquels on se trouve. Et devant ce donné, on ne trouve pas nécessairement une loi, pas une loi devant le donné. Le donné est une réalité concrète devant laquelle on se trouve et dont on doit tenir compte avec ses aspérités, avec ses... Comment est-ce que nous appelons ça ? Ses aspérités avec ses...
contraintes.
Ses contraintes, exactement.
On peut appeler ça contrat.
Donc, les réalités concrètes dans lesquelles on se trouve. Et ça demande évidemment que l'on fasse un choix des données. On ne parlera pas de tentation, bien entendu. On parlera de choix, de détermination, de choix. Faut travailler à l'intérieur de ce devant lequel on parle de choix. Je ne sais pas quel terme j'emploie. Ici, on est peut-être beaucoup plus libre, parce que ça dépend très fort de la manière dont on voit les choses. Et si vous avez agi en dehors de ces contraintes, qu'est-ce qui se passe? Un échec. C'est ce que nous appelons, dans le langage courant, un échec. Ou une tentative qui avorte. Enfin, vous pouvez prendre tous les mots que vous voulez, vous trouvez devant l'échec. Parce qu'on n'a pas pu, il est parti. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on a mis en branle. Alors, on ne parlera évidemment pas de péché dans un langage païen.
Alors, j'ai entendu ce matin, à propos du sida.
Quoi, du péché?
Non. Ça, c'est.
On ne parle pas d'un péché, mais on parle d'erreur.
On fait une erreur. Ils n'ont pas dû faire comme ça. On fait une erreur.
Mais il n'y a personne qui nous le révèle. C'est l'homme en lui-même qui se le révèle. Et si on parle de quelque chose, on va parler de faute. Donc on va parler ou bien d'erreur. Ça, c'est plutôt
plus. On va parler éventuellement de faute.
Il n'y a personne qui va nous révéler jusqu'où nous sommes, jusqu'où il est touché par ça. Et donc, je reste enfermé dans mon monde et en moi-même, dans ce jeu-là.
Ce matin, le péché était considéré comme un tabou à dépasser.
Tout à fait. C'est ça. Il y a une erreur devant laquelle je me trouve, il faut dépasser d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais devoir faire pour dépasser cela?
Je peux être comme mort, oui.
Je peux.
Corriger l'erreur.
Correction.
On va corriger le tir. Vraiment, donc il faut établir une correction.
Une cure psychanalytique.
Par exemple. Mais oui. Une cure psychanalytique, un processus de guérison, éventuellement une religion, une formule, un zen, toutes sortes de moyens, toutes sortes. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais nous sommes, vous voyez, dans. Ce que les philosophes appellent l'intramondain, c'est-à-dire dans la réalité du monde qui n'est qu'elle-même. Il n'y a pas de dialogue. C'est ça que c'est la différence. On appelle les corrections. Pour la correction de ce que je dis ici. Ici, on peut appeler. On peut mettre thérapie, on peut mettre guérison, Mais guérison, vous voyez dans quel sens? Il faut rétablir, ajuster en quelque sorte le tir ou l'erreur. Et de la correction, on va trouver une réforme, un plan quinquennal, une loi nouvelle pour corriger l'erreur qui a été défaite, appelez cela aussi comme vous voulez, un ordre nouveau. Dit d'une manière plus générale, un changement. Je ne sais pas lequel, mais vous retrouvez un autre domaine.
Des pénalités.
Oui.
Pourquoi dis-tu qu'il n'y a pas de dialogue dans ce processus de guérison? Il peut y avoir un dialogue, mais qui n'est pas un dialogue humain.
Ah, il y a un dialogue humain, mais il n'y a pas de dialogue. Le véritable dialogue, c'est celui que que je l'ai avec, même quand je fais un dialogue humain avec quelqu'un, si ce dialogue n'est pas absolu, il n'est pas encore dialogue.
Il n'a pas de transcendant.
Il reste toujours, oui, justement, hein, à l'intérieur de mon monde, pas de transcendant. Et le véritable dialogue, c'est à l'intérieur de la Trinité qu'il m'est donné. Ou dans le processus juif, à l'intérieur de l'alliance de Dieu avec l'homme. Et ce que je veux marquer, simplement, c'est qu'ici, vous avez un processus qui est dialogal au sens de Dieu-homme. Ici, vous avez toujours un processus, comme on l'appelle, intramondain. C'est-à-dire, je ne me trouve jamais en responsabilité devant l'absolu. La responsabilité est toujours liée à des conventions, à des réalités sociales, à des réalités psychologiques éventuellement, etc. Oui. Qu'est-ce que Jean-Paul II fait? Il appuie ça là-dessus. Il va essayer de dire, justement, ça c'est le langage missionnaire. Essayer de faire découvrir à celui qui ne croit pas en Dieu combien il y a déjà en lui-même une réalité, une force de Dieu. Autrement dit, ce que tu vis, entends-le. C'est ça qu'il est en train de dire. Il y a, disons ça autrement, il y a l'absolu de la vie en tout homme. Il y a une sorte de respect de la vie, quelle que soit maintenant cette vie. Mais disons que ça, c'est certain, c'est un acquis, c'est un donné. Et il va tabler là-dessus, et il va reprendre, comme d'ailleurs le fait Paul à Athènes, il va reprendre ce schéma-là, et il va en quelque sorte montrer comment, sous ce schéma intramondain, se découvre quand même une force transcendante. Mais c'est au risque et péril de l'écoutant. Hein. Si j'y suis ouvert, je comprendrai quelque chose. Si j'y suis pas ouvert, je ne vais pas entendre, entendre ce que je fais. Mais c'est un schéma abstrait, hein, c'est une pour la même chose, ça fait. Le point, vous pouvez faire la même chose. Je dirais, en fait, peu importe, oubliez tout ça. L'essentiel, c'est de découvrir que en Jésus, que nous venions du judaïsme ou que nous venions du paganisme, et nous sommes toujours les deux. Il y a toujours en nous quelqu'un qui croit, il y a toujours en nous quelqu'un qui ne croit pas. Toujours un Dieu et un sans-Dieu. Et dans la mesure où nous venons d'un côté et de l'autre, nous découvrons Jésus différemment. Jésus est celui qui révèle aux Juifs jusqu'où il est appelé. Et Jésus est celui qui révèle aux païens jusqu'à quelle profondeur il agit. Jusqu'à quelle profondeur Dieu est déjà enfermé dans ce qu'il dit. Mais c'est grâce à Jésus que je reçois l'un et l'autre. Et vous comprenez que les apôtres, les disciples, vont être affrontés à tout ça quand ils vont devoir rencontrer des villes païennes. Comment vais-je inculturer la foi dans ces villes païennes? Alors c'est le problème des actes des apôtres. Mais avant de découvrir ce problème dans le réel et la manière dont il va être géré par les apôtres et par les disciples après eux, il faut d'abord découvrir que l'un et l'autre sont appelés à la même réalité, au même Jésus, que le même Jésus concerne l'un comme l'autre. Ça, c'est pas évident. Alors, dire ça aux païens, pas trop vite. Dire ça aux juifs, c'est important. C'est important. Parce qu'il pourrait s'enfermer en lui-même. Dire autrement, dire aux juifs que nous sommes, qui nous trouvons bien à l'intérieur, j'espère que ce n'est plus le cas, que nous trouvons bien à l'intérieur de notre petite église, hein, en cocooning, là, dire à ces gens-là que Dieu risque de se trouver en dehors, quasiment en dehors du cocon. Et il faudrait peut-être regarder. C'est comme Jésus dit aux pharisiens, regarde un peu cette femme-là, cette pécheresse. Regarde un peu, et là les gestes de Dieu qui aime. C'est quand même étonnant, hein, qu'il y ait cette pécheresse. Mais il faut le faire surgir. Il ne s'agit pas de dire c'est comme ça, c'est de le faire surgir. Il faut encore aller jusqu'à le révéler. Et le révéler à l'une comme à l'autre. Et c'est un peu le chemin que Luc fait dans cette double écoute entre le chapitre 5 et le chapitre 9. Alors, nous verrons tout à l'heure comment il fait le même chemin, mais surtout pour l'église de Jérusalem. Il a besoin d'être éduqué en regardant cette deuxième section qui va du chapitre 8 jusqu'au chapitre 11, verset 18. Nous allons aller là-dessus assez rapidement. Que j'ai intitulé de Jérusalem à Césarée, la croissance de la parole. Et puis il nous faudra encore voir comment Paul traduit cela dans l'Épître aux Éphésiens. Voilà le programme, la tâche que nous avons à partir de 5 heures, de 5 à 6. Voilà, maintenant cela.
Actes des Apôtres, chapitre 8.
J'essaie de vous faire le plan de ce qui est dit dans l'Évangile. Et vous voyez que dans l'Évangile, on vous parle déjà au fond de l'Église. En quelque sorte, on anticipe cette réalité d'Église où il y a des gens de l'Assemblée et des gens de l'extérieur. Ou dit autrement, des gens venant du judaïsme, des judéo-chrétiens, et des gens venant du paganisme, c'est-à-dire des pagano-chrétiens. Alors, le problème est de voir comment sont-ils arrivés à vivre ensemble. Le problème pour nous aujourd'hui est de savoir comment l'Église qui a commencé à bâtir du judaïsme a-t-elle en quelque sorte évacué le judaïsme. Il n'y a plus qu'une petite communauté de témoins, l'Église hébréophone qui parle hébreu, en Terre Sainte, où il y a quatre paroisses, enfin, il n'y a plus que cela comme témoin. J'en dis d'ailleurs un mot dans le commentaire des Actes des Apôtres. C'est une sorte de communauté témoin. Cependant, il y a encore dans nos communautés, et alors le terme juif et le terme païen ont pris une valeur de type, il y a encore dans nos communautés, certainement, les communautés de type judéo-chrétien, bien plutôt, ce sont des gens qui ont un sens profond de Dieu, pour qui, je dirais, Dieu va de soi, et qui ont grandi dans une tradition chrétienne, et qui ont approfondi cette tradition chrétienne, de sorte qu'ils ont vraiment découvert la personne de Jésus comme le ressuscité avec qui l'on vit. Et donc ça, c'est vraiment l'esprit judéo-chrétien que vous trouvez dans l'Église aussi, même si on n'est plus juif d'origine. Et il y a aussi dans l'Église, dans notre Église de tous les jours, et souvent en catéchèse, nous avons des jeunes qui viennent de ces milieux-là, des gens qui ne savent plus, qui ne savent plus. Et même, c'est très curieux, sur le plan culturel, qui ont complètement oublié Jésus. Bon, peut-être qu'on a entendu parler de lui, mais vraiment, c'est tellement lointain, c'est tellement un homme de l'histoire qu'on ne sait plus rien à son sujet. Et il y a une dame qui guide dans les musées d'art ancien à Bruxelles et qui me faisait la réflexion. Il y a beaucoup d'écoles qui viennent dans ces musées. Elle me disait, il n'y a pas un groupe de jeunes, ce ne sont pas tout à fait des enfants, hein, ce sont des adolescents, il n'y a pas un groupe de jeunes qui passe ici, qui me demande quel est ce monsieur qui est mis sur la croix. Elle me dit, on ne sait plus. On n'a plus aucune notion.
Même en Belgique.
Même en Belgique. Oui.
Que dire de la France?
Non mais la France laïque et républicaine.
C'est symptomatique ça quand même. Hein. Musée. Moyen Âge évidemment. Hein.
Le royaume de Belgique.
Bien. Sachant absolument et devant elle-même, le vent par lui. C'est intéressant pour elle. Mais voyez. Jusqu'où c'est Jésus et ce qu'il peut signifier est évacué de notre monde culturel, même du monde culturel, et ça n'a plus aucune espèce d'importance dans un milieu dit traditionnellement chrétien. Je trouve que c'est symptomatique. Alors, ici, c'est vrai que, comme on disait ce matin, hein, les gens qui vont prêcher Jésus vont évidemment se trouver évidemment dans une tâche quasiment impossible. Non pas parce qu'on a perdu de vue quelque chose du passé, mais parce qu'on ne sait pas et qu'on est dans un tout autre monde. C'est vrai que le monde des païens de l'époque est un monde religieux, d'une certaine religiosité. C'est-à-dire que le monde des dieux je dirais n'est pas inexistant. Je m'exprime de cette manière un peu contournée parce que il est clair que quand on pousse un peu soit chez les Romains soit chez les Grecs cette notion de dieu au premier siècle les gens en parlent avec quand même une certaine indifférence. Quand on dit qu'on divinise les empereurs, bon, qu'est-ce que ça veut dire, diviniser les empereurs? C'est-à-dire leur donner une place un peu idéale, hein, les mettre un peu sur le pavois. Mais, de toute manière, l'expression Dieu qui est utilisée n'est jamais vraiment la transcendance. C'est une sorte d'idée, une réalité qui plane un peu entre ciel et terre, mais qui exprime une sorte d'inconnu, une sorte de présence, un peu une présence limite. Mais ce n'est certainement pas Dieu personnel entrant dans notre histoire, ayant un rapport personnel avec l'homme. Non, certainement pas ça. Alors, c'est vrai que nous-mêmes, quand nous avons à parler de Jésus-Christ, nous nous trouvons devant une difficulté, souvent d'un athéisme militant ou bien d'une indifférence généralisée, où Jésus, de toute manière, quand on le connaît, est considéré comme un fondateur de religion parmi d'autres, toutes les religions se valant, hein. C'est le slogan, toute la religion, c'est vraiment. Mais savoir exactement quelle est l'importance et la valeur qui sont données à Jésus comme fils de Dieu, là, je crois que ça disparaît de plus en plus de notre horizon culturel. Peut-être qu'il y a une chance, peut-être. C'est-à-dire de retrouver un chemin pour redécouvrir la transcendance divine. C'est un choix. Mais c'est très difficile. Pourquoi? Parce que la personne de Jésus, si tant est qu'on y fasse attention, est toujours liée à ses témoins. Et que ces témoins dont nous sommes ne sont pas du tout brillants. Et que la plupart du temps, c'est à partir de difficultés avec les témoins, l'Église, entre guillemets, ou des chrétiens, de difficultés d'incompréhension, de rejet. Hein. Dites cela de toutes les manières possibles et imaginables, vous connaissez beaucoup de cas, moi aussi. Hein. C'est à partir de tout cela que l'opposition, voire la rupture, s'est produite. Et je crois que ces ruptures sont un chemin. un chemin qui nous fait nous-mêmes et qui invite peut-être ces personnes qui ont été blessées, qui se sont senties rejetées ou qui se sont rejetées, qui se sont mises à l'extérieur, c'est facile. Donc c'est une occasion pour les uns comme pour les autres de nous poser la question, mais qui est-il ? Qui est-il celui qui apaise les gens de la barque ? Qui est-il celui que nous considérons à l'intérieur de l'Église comme le sauveur, comme celui sur qui nous pouvons compter et nous appuyer ? Qui est-il celui-là qui continue d'être en ce 20e siècle subversif ? Qui demande aux gens d'aller dans les églises, ou qui célèbre hein, pour, dans des stades pour la population, qui est-il celui-là qui se trouve derrière toutes ces images plus ou moins exactes que nous avons de l'Église ? Alors, c'est un peu dans ce type de climat premier, donc de non-connaissance, qu'il faut mettre ce départ de l'Église. Différent donc de ce contexte de aujourd'hui, où il y a méconnaissance. Là, il y avait inconnaissance, on ne savait pas encore de qui il s'agissait. Aujourd'hui, il y a méconnaissance, que cette méconnaissance soit voulue ou non. Et on peut bien, dans beaucoup de cas, l'expliquer. Et nous devons être respectueux pour ces ruptures qui ont existé et qui existent, et découvrir notre solidarité avec la réalité pécheresse présente dans l'Église. Alors, ce que nous voyons dans le texte de la deuxième section de l'Évangile, des Actes des Apôtres, c'est le chemin de la parole. Je vous ai dit que la parole a commencé par se déployer en Samarie, et que là, elle a fait des adeptes à telle enseigne que la Samarie et Jérusalem commencent à se réconcilier.
Ce chapitre commence à 8:2.
Le chapitre, je commence avec 8:1. Oui. Nous avons « Or, Shaoul était approuvant son exécution, et nous sommes présents à Étienne. » Et puis, début, « Or, arrivant ce jour-là, une grande persécution sur l'Église. » Or, vous trouverez que c'est drôle de couper au milieu d'un verset. Or, ça, je l'explique dans le commentaire, je ne vais pas le faire ici. Je suis, en cela, toute une... Je crois que c'est vraiment une trouvaille qu'a faite Don Dupont, que j'utilise beaucoup dans le commentaire sur les Actes des Apôtres, parce que c'est un de ceux qui ont le plus écrit sur les Actes des Apôtres. Il n'a pas encore écrit une brique. Il a écrit beaucoup d'articles, mais il n'a pas écrit une brique sur les Actes des Apôtres. Il a écrit beaucoup de choses, mais il n'a pas écrit un livre sur les Actes des Apôtres. Il a écrit sur les sources des actes, il en a écrit un sur des études sur les actes des apôtres, et puis nouvelles études sur les actes des apôtres qui sont de gros prix, mais en fait il n'y a pas de commentaire. Mais il a écrit vraiment beaucoup. Et alors il nous rend attentif à ceci, qui est un principe de Lucien de Samosa, qui est un écrivain humanistique, et qui nous dit que les césures ne sont pas là où nous les voyons d'habitude. Nous, quand nous avons achevé un chapitre, nous faisons une petite conclusion, et puis nous commençons en lisant avec quelque chose de nouveau, et nous disons. Et puis, en général, on croit que les césures sont là, mais Lucien de Samosa nous dit, c'est pas à cet endroit-là qu'il faut faire la césure. La césure, il faut la faire comme c'est le procédé qu'il appelle le tuilage. C'est-à-dire au moment où le premier chapitre et le deuxième chapitre s'unissent. Et chaque fois, vous verrez que j'ai suivi son principe, qu'il n'a pas suivi, lui, parce qu'il a découvert ça après, dans l'édition qu'il a faite dans la Bible de Jérusalem en fascicule. Là, il a fait publier les Actes des Apôtres, les notes et la traduction. Alors ici, vous avez ce procédé de tuilage. Or, Shaoul était approuvant son exécution. Or, arriva en ce jour-là. Oui, c'est le même verset qui parle encore d'un et qui parle déjà de l'autre. Une grande persécution sur l'église de Jérusalem. Donc on se trouve en climat de persécution. Tout au siècle, nous nous trouvions en climat de persécution. Les choses paraîtraient souvent plus claires. Et tous furent, et le terme est important, disséminés. On traduit souvent par éparpillés, mais c'est disséminé le terme. Or, le terme grec dit envoyé comme une semence. Disséminé, vous avez le terme de semence là-dedans. Disséminé par les pays de Judée et Samarie. Judée et Samarie, qui se trouvaient déjà en quelque sorte, mais là c'était plutôt Galilée et Judée, se trouvaient réunis au Jourdain où Jean baptisait. Ici c'est Judée et Samarie, à l'exception des apôtres. Les apôtres, semble-t-il, au départ, restent à Jérusalem. Des hommes religieux inhumèrent Étienne, firent grand deuil sur lui. Or, Shaoul, on le reprend, pour bien dire qu'il est essentiel, démantelait l'église. Mais l'église, faut-il un grand T, faut-il un petit E? L'église à ce moment-là, qui était encore une église locale, pénétrant dans les maisons et traînant hommes et femmes, il les livrait à la prison. Est-ce que il a tué des personnes ou fait tuer, ça n'est pas dit, et lui-même ne le dit pas. Il a dit qu'il a été persécuteur d'église, il le dit lui-même plusieurs fois dans ses lettres, mais on ne sait pas jusqu'à quel point. Quant à ceux qui avaient été disséminés, ils traversèrent le pays annonçant la bonne nouvelle, la parole. Voilà comment les choses sont annoncées. Alors comment la parole fait-elle route ? De voir quelque chose qui n'est pas exact à la page 35. Il y a des choses qui ont encore dépassé. Le titre du B à la page 35, l'eunuque adorateur, devrait être en caractère plus petit comme A, Samarie accueille la parole. Et il est en graphie plus grand. Là, ce sont ces petites choses qui échappent très souvent. Bon, voilà. La parole fait route, voilà comment on a. La parole fait route. Comment on a intitulé cette première partie. Alors, où la parole fait-elle route? La parole ne fait pas route d'abord dans un pays étranger, mais un pays qui semble hétérodoxe, la Samarie. Les Samaritains se sont séparés des gens de Judée. Au moment, donc, après Salomon, au moment du schisme, juste après la mort de Salomon, en 930. Et lorsque les Samaritains et les Judéens sont rentrés d'exil, les Samaritains ont voulu reconstruire le temple avec les Judéens, et les Judéens ne les ont pas voulu. Et donc le schisme a repris de plus belle. C'est pour ça que l'on dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 4e, hein, que les Juifs n'ont pas de rapport avec les Samaritains. Hein, donc, lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine au puits. Et donc on nous raconte la Samarie. La parole fait route. Et le premier arrêt de cette parole, c'est la Samarie. Samarie est pris tantôt comme le nom de la ville, tantôt comme le nom de la province. Quoi qu'il en soit, la ville de Samarie est évangélisée. Philippe est un des sept. Vous voyez, ce n'est pas un apôtre, c'est un des sept qui descend à Samarie. Et les gens se mettent à l'entendre. De nombreux paralysés et boiteux furent soignés. Ce qu'ont fait les apôtres, les sept le font aussi. Et arriva une joie nombreuse dans cette ville-là. Luc aime beaucoup souligner la joie procurée par l'annonce de la bonne nouvelle. C'est vrai pour l'évangile de l'enfance, c'est vrai aussi pour l'évangile des actes. Or, un certain homme du nom de Simon, vous voyez, c'est un nom très courant, un certain homme du nom de Simon se trouvait auparavant dans la vie. Ce Simon, il semble-t-il un juif plus ou moins orthodoxe ou hétérodoxe, qui exerce la magie et mettant hors d'elle la nation de Samarie. Je vous ai dit un certain nombre de choses importantes. Disant être lui-même quelqu'un de grand.
Comme le faire ça lui-même.
À qui tous s'attachaient du petit jusqu'au grand, disant « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui est appelée grande. » C'est très curieux en grec, parce que la grande se dit en grec « mégalé ». Mégalos, grand, au féminin, mégalé, la grande. Mais si vous prenez le mot en araméen ou en hébreu, « mégalé » veut dire « révélatrice ». Ou révélateur. Alors, on ne sait pas très bien si le nom vient de l'araméen ou s'il est pris comme le grec. Or, il s'attachait à lui en raison de ce que pendant un temps suffisant, il se trouvait les avoir mis hors d'eux par ses pratiques de magie. Et alors, quand ils se mettent à croire à Philippe, des hommes et des femmes étaient baptisés. Simon, lui aussi, il entre dans le jeu, il est baptisé. Mais une fois qu'il est baptisé, et ayant été baptisé, il tenait ferme à Philippe, et observant les signes et les grands gestes de puissance qui arrivaient. Et il était hors de lui. Lui-même est subjugué par la puissance qui vient de Philippe.